Europe 1.
18h32 sur Europe 1, place au débat des grandes voix dans votre grand journal du soir autour de vous. Aujourd'hui, François. Chloé Morin, politologue et experte associée à la Fondation Jean Jaurès, et Hélène Morano, psychothérapeute. Vous pouvez aussi réagir, n'hésitez pas, au 39-21.
On attend évidemment vos appels sur ce thème très grand public. Bonsoir Chloé Morin.
Bonsoir.
Vous dirigez le département opinion au sein de la Fondation Jean Jaurès. Est-ce que vos études confirment, Chloé Morin, que le message aujourd'hui autour du port du masque dans l'espace public a peut-être plus de mal à passer que les messages qui passaient au moment du confinement pur et dur?
Oui, on se rend compte qu'en réalité, c'est très compliqué de faire passer un message qui est à géométrie variable selon les lieux où on en est ou selon le moment. En réalité, on comprend que la stratégie est évolutive selon la circulation du virus sur le territoire. La première chose pour engendrer un suivi des gestes barrières, c'est la simplicité du message. Et aujourd'hui, ça n'est absolument pas simple, puisque selon qu'on est dans Paris ou sur la Côte d'Azur, on va avoir des consignes potentiellement différentes.
Et même encore plus différentes si on est sur les quais à Paris ou si on est finalement au cœur du 16e arrondissement tranquillement, où c'est peut-être pas obligatoire. En même temps, ça répond à ce qu'est l'évolution de l'épidémie, que d'essayer de justement aller, de cibler là où il y a plus danger.
Oui, mais la difficulté, c'est que en réalité, quand on voit le respect, par exemple, du confinement, tout le monde a dit finalement les Français ont été extrêmement disciplinés puisque ils ont respecté l'ensemble des règles qui étaient très contraignantes. Oui, mais à ce moment-là, il y avait une peur qui était extrêmement forte. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que un certain nombre de personnes sont fatiguées d'avoir peur et ont un sentiment de vulnérabilité qui est beaucoup moins grand, surtout quand ils sont jeunes, que les personnes âgées ou les personnes à risque. Et donc, finalement, la tendance à suivre les règles en matière de port du masque ou de gestes barrières est aussi indexée sur cette peur beaucoup plus individuelle, en réalité.
Et qui va, et on va le voir avec vous, peut-être générer un problème sur l'équilibre collectif de notre ensemble social. Bonsoir Hélène Morano. Bonsoir Hélène Morano.
Allô ?
Oui, vous êtes avec nous.
Alors moi c'est Hélène Romano, Morano c'est quelqu'un d'autre, mais c'est pas grave.
Non, excusez-moi.
Elle est loin, oui.
Hélène Romano, vous êtes psychothérapeute, vous intéressez justement à ce qui, dans l'inconscient, pourrait justifier un comportement ou non des Français. Et vis-à-vis du masque, vous constatez que ça coince également.
Ça coince pour différentes raisons. Il y a à la fois probablement un enjeu psychique et une forme de déni par rapport au risque, par rapport à la gravité. Mettre le masque, c'est reconnaître le danger. Ne pas le mettre, c'est rester dans l'illusion qu'il n'y a pas de danger. Ça, c'est une première explication. Il y a probablement aussi pour d'autres une difficulté à respecter la consigne et à être plus dans la transgression. Et quand on a été très stressé, quand il y a des injonctions un petit peu contradictoires des politiques, des décideurs, des soignants, des médecins, des scientifiques, c'est très compliqué pour les personnes de respecter. Donc il y a probablement ces deux dimensions qui sont à prendre en ligne de compte pour comprendre la résistance au masque.
On aurait accepté quelque part, Hélène Romano, d'être passif pendant le confinement, mais après de trop longues semaines de passivité, on veut redevenir finalement, actif, et ça passe par une forme de rébellion ou d'expression plus forte de l'individualisme.
C'est tout à fait ça. Pendant plusieurs mois, les personnes ont été extrêmement respectueuses globalement des règles posées par le confinement. On les a déconfinées, pour reprendre l'expression d'usage. Mais du coup, maintenant, il y a un sentiment de liberté retrouvé. Et quand on entend certains dire que le masque est libéré ici, on voit bien l'enjeu. symbolique du masque qui vient juste cristalliser un besoin de la population d'être respectée et d'avoir l'envie d'être entendue. Et pour le coup, en mettant un masque, on n'est plus entendu, on n'est plus vu et ça devient compliqué.
Alors restez bien avec nous, Chloé Morin et Hélène Romano. Nous avons pas mal d'appels ce soir au 39-21. C'est une question là qui touche directement les Français. On va prendre la direction de Lille, qui a été d'ailleurs l'une des premières régions de France à réimposer un masque dans l'espace public dans certains secteurs. Lille, où vous trouvez Jean-Philippe?
Oui, bonsoir, oui, bonsoir à tous.
Merci de votre fidélité à Europe 1. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces nouvelles obligations auxquelles vous êtes soumise à Lille?
Oui, donc moi, mon témoignage, je pense, s'il a été retenu, c'est parce que j'ai plusieurs casquettes. Je suis soignant, donc je suis kinésithérapeute à l'hôpital, donc je dois porter le masque à l'hôpital. Et ça, c'est vraiment très, très important pour moi et pour les patients. Moi, je suis pour le port de masque à l'intérieur, dans le milieu clos, parce que là, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais par contre, à l'extérieur, pour moi, c'est vraiment très difficile. Alors, je ne parle pas dans les lieux comme les lieux où il y a vraiment beaucoup de monde, comme la rue de Béthune à Lille, où là, vraiment, il peut y avoir beaucoup de monde. Mais par exemple, la Citadelle, où là, moi, je suis coureur, et porter un masque quand on court, je trouve ça mais complètement une aberration, ou quand on fait du vélo, alors qu'on sait que l'activité physique est nécessaire, et on sait que l'importance de l'activité physique, notamment dans le Covid, pour stimuler l'appareil immunitaire, c'est très très important. Alors, je ne sais pas comment on peut faire pour courir, pour faire une activité physique avec un masque.
Donc, oui, impossible, préfet, hein, c'est dur
moi,
de marcher même parfois seulement.
J'invite le préfet du Nord à venir courir avec moi, avec le masque, faire 12 km, et on va voir si c'est vraiment réalisable. Et ce n'est pas réalisable.
Bon,
et
donc, on va lui proposer, Jean-Philippe.
Voilà,
on lui lance
voilà.
L'appel ce soir sur Europe 1 et on fera un reportage. Merci de votre témoignage. Chloé Morin, en entendant Jean-Philippe à Lille, on sent que finalement cette obligation collective entraîne un... comme si on ne nous responsabilisait pas. Jean-Philippe nous dit, bon, ben moi je suis assez grand pour savoir que là il y a du monde et que je peux mettre un masque et que là il ne faut pas que j'en mette.
Oui, la difficulté, c'est qu'en réalité, on est une société où il y a une défiance horizontale, c'est-à-dire des citoyens envers les autres citoyens, une défiance très forte. Et pendant tout le confinement, c'était extrêmement frappant. Lorsqu'on mesurait la défiance, en réalité, on parlait de la défiance des citoyens vis-à-vis du gouvernement, qui avait l'air d'agir trop tard ou de ne pas agir ne pas être à la hauteur des événements. Mais en réalité, il y avait aussi une autre défiance qui s'exprimait, c'était la défiance d'un citoyen vis-à-vis d'un autre, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas confiance, on ne fait pas confiance à nos voisins, à nos aux gens qu'on croise dans la rue pour faire ce qu'il faut. Et donc ça a un impact nécessairement sur la manière dont on perçoit les autres et sur la manière dont on réagit lorsqu'on voit des gens qui ne portent pas le masque, etc.
Et d'ailleurs, Hélène Romano, alors je rappelle Chloé Morin que vous étudiez pour la Fondation Jean Jaurès les mouvements de l'opinion. Hélène Romano, vous êtes psychothérapeute et vous vous intéressez au comportement. Vous sentez qu'il y a une forme, de fracture qui est en train de naître générationnelle. Il y aurait d'un côté des jeunes un peu irresponsables et des personnes âgées qui ne comprennent pas ce comportement et des jeunes. Et est-ce que c'est dangereux pour notre équilibre social ?
Alors, il y a plusieurs fractures. Il y a une fracture culturelle. On est quand même un peuple qui a plutôt l'habitude d'être dans un rapproché corporel au niveau relationnel par rapport à des peuples nordiques. Et le masque et la distanciation qu'on nous impose du fait de la crise sanitaire bouleversent aussi ce rapport-là. Donc ça, c'est la première rupture. La deuxième rupture, c'est celle, en effet, de l'investissement du masque qui est différent selon les générations, avec des personnes âgées qui sont probablement plus respectueuses de la consigne que les jeunes. Je dirais pas le terme irresponsable parce qu'ils ont un autre rapport à la responsabilité et une autre perception du danger. Ce qui explique, et d'ailleurs ils le disent très très bien dans les enquêtes, pour quelles raisons ils ne veulent pas mettre le masque. Donc ça crée un clivage générationnel, un clivage aussi entre les grandes villes et les gens à la campagne. On voit bien quand on bouge un petit peu en France entre ce qui se passe à Paris, ce qui peut se passer dans des villes moins exposées à la population, le rapport au masque est différent. Donc ça crée aussi un clivage entre les adultes et les enfants. On dit que les enfants sont moins à risque, mais porteurs. Donc ça, c'est extrêmement déstructurant pour une population. Et c'est vrai que le besoin actuel, c'est celui d'une continuité, d'une cohérence dans les décisions qui sont prises. Et j'allais dire dans le portage, entre guillemets, du masque. Parce que quand on voit des gens qui ont le masque sur le coude, qui après vont le mettre au niveau du visage, ça ne sert pas à grand-chose.
Oui, ou qui laisse le nez découvert également, comme on le voit assez souvent.
Ça n'a pas de sens. Et la population a besoin qu'il y ait du sens, pas être infantilisée, être responsabilisée, ça c'est important.
Et pas forcément culpabiliser non fait. Plus. Restez bien à l'écoute, Chloé Morin, Hélène Romano. Bertrand nous appelle de Strasbourg. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir et bonsoir à vos deux interventions. Deux personnes qui interviennent. Très intéressant d'ailleurs ce qu'elles disent. Je voudrais vous faire une remarque simple.
Allez-y.
Il y a actuellement, d'après les chiffres qui sont donnés sur le site de Santé publique France, 292 clusters référencés au 4 août. Mais quand on étudie les chiffres et qu'on regarde les cartes qui sont proposées sur le même site, notamment le nombre de personnes actuellement en réanimation ou soins intensifs Covid-19, hommes et femmes confondus, toutes tranches d'âge, on a une autre carte qui s'affiche et qui est beaucoup plus intéressante, notamment le nombre de cas décédés qui nous inquiète tous et qui nous préoccupe plus que de savoir que des personnes sont positives et finalement... La grande majorité des gens sont quand même sortis vivants de pandémie, en tout cas en France, hein, j'entends. Donc je me pose un certain nombre de questions, comme beaucoup de Français, sur forcément les utilités des mesures barrières, même si sur un plan civique, je respecte et j'essaie de respecter au maximum ces mesures, par respect aussi pour mes compatriotes. Je porte le masque en partie.
Vous avez des
mais
doutes.
Voilà, il y a un trouble qui a été créé depuis le début par une communication qui a été désastreuse
et un message totalement
qui,
brouillé.
Malheureusement, si vous voulez, se poursuit dans l'esprit des gens. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par vos deux interlocutrices. Et je vous invite à aller regarder ces cartes dont je vous parle.
Alors peut-être tout simplement, Bertrand, que la carte du nombre de foyers, allez, disons, de foyers de contamination, ce qu'on appelle les clusters, est une carte qui est une forme de menace sur l'avenir, avec un risque de circulation plus active du virus, et que la carte des hospitalisations et des cas est celle de l'instant T, et on sait qu'il y a un décalage entre le moment où on est infecté et le moment des effets de la maladie. Est-ce qu'on serait là typiquement avec Bertrand, Chloé Morin, dans ce que vous nous évoquiez, une forme de réticence par rapport au discours dominant et au discours des décideurs. Manque de confiance.
Oui, un manque de confiance. Et puis, c'est évident. D'ailleurs, il y a eu des mesures pendant le confinement qui montraient que un grand nombre de Français ne croyaient pas, en fait, les statistiques publiques et les données qui étaient publiées. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il y a quand même une chose dont on peut se réjouir, en tout cas pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas la dimension de politisation du non-port du masque. C'est-à-dire qu'on voit d'autres pays, et notamment les États-Unis, où le non-port du masque est devenu une forme de symbole d'insoumission politique.
On le voit en Allemagne, en Angleterre. En France, il y a quand même un groupe Facebook avec 4000 personnes qui militent activement pour la résistance au port du masque. Hein.
Mais à ce stade, ça reste relativement marginal.
Absolument.
Et quand on pose la question aux gens, est-ce qu'il faut porter le masque, on a des taux quand même d'adhésion, même si ça ne se traduit pas par un port du masque effectif pour tout le monde, on a des taux d'adhésion qui sont très larges. Alors que dans certains pays, effectivement, il y a des débats qui sont virulents. Donc on peut se réjouir que au moins nous, pour l'instant, on échappe à cette dimension, disons, politicienne du débat.
Même si, dans certains pays, il y a même carrément zéro débat à l'autre bout, j'allais dire, du curseur ou de l'échelle en Scandinavie, notamment, même si, a posteriori, il y a parfois des débats, comme on l'a vu en Suède, sur ce qu'a été la stratégie initiale des autorités. Il faut rappeler quand même, Hélène Romano, que le masque, pour nous, Français, c'est un véritable basculement culturel. Et que c'est pas évident à
imposer. Un basculement culturel, c'est très difficile à imposer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut aussi rappeler que la Covid, c'est quelque chose d'invisible. Et le virus, il est invisible. Il est mortel. Il y a eu plus de 30 000 morts et des milliers de personnes endeuillées. Il faut pas l'oublier non plus. Et le masque, ça vient rappeler en permanence cette réalité d'un virus qui peut tuer, même si statistiquement, il y a un grand nombre de personnes qui, comme le disait votre auditeur, ne vont pas avoir des troubles majeurs. Mais il y a quand même des gens qui sont extrêmement maladies d'autres qui décèdent. Donc ça vient rappeler ça, c'est extrêmement anxiogène. Et dans une population qui est très fragilisée, et il y avait beaucoup d'enjeux avant le confinement qui avaient fragilisé la société française, avoir quelque chose qui est très anxiogène, ça n'est pas facile. Quand vous portez le masque, vous portez quelque chose qui vous protège, qui protège les autres, mais qui rappelle l'existence d'un virus pour lequel on n'a pas de vaccin, pour lequel on n'a pas de traitement qui fasse unanimité et qui peut vous tuer. Donc c'est extrêmement anxiogène.
Et c'est l'effet inverse alors, du coup.
Bah, ça peut expliquer que certaines personnes, soit vont le porter de façon permanente, avec une peur au ventre continue, voire même une psychose pour certains. On a des troubles assez spécifiques qu'on n'avait pas par rapport au virus et aux mesures de protection qui doivent être mises en place chez certaines personnes, avec des vrais troubles obsessionnels compulsifs de propreté. Ou alors, on a des gens qui, par déni, ce que je vous disais tout à l'heure, vont s'en préserver, s'en protéger et refuser de le porter parce que c'est trop anxiogène. On a du mal à respirer.
Et ça peut même être...
On ne reconnaît pas les autres.
Ça pourrait même être, Chloé Morin, on évoquait qu'il n'y avait pas forcément un mouvement politique structuré rejetant le masque, mais tout simplement des gens qui viennent dire « Moi, cette société où on est masqué, je n'en veux pas demain. » Et ça brouille le message pour le nécessaire port du masque aujourd'hui.
Oui, bien sûr, il y a une dimension culturelle et une dimension de comment dire de qui ne touche pas uniquement au masque d'ailleurs, mais qui consiste à dire finalement on ne cesse de rogner sur les libertés individuelles et l'équilibre entre droits et devoirs et risque d'être durablement atteint par la maladie en fait. Et donc on peut imaginer qu'il y a des oppositions disons philosophiques et culturelles au port du masque, même si je pense que c'est quand même assez marginal.
Et c'est un débat qu'on peut aussi tout savoir de manière, j'allais dire, interne et profonde. Un jour, on dit, ben oui, il faut que je fasse attention pour le monde qui nous entoure. Et avec un peu de lassitude, de fatigue, se dire le lendemain, mais cette société, on doit être tous masqués. Elle me fait peur, elle me terrifie et je n'en veux pas demain. Question très difficile, très compliquée, sur laquelle, évidemment, surfent les autorités politiques qui sont là pour prendre des décisions. Et c'est pour ça qu'il était particulièrement intéressant ce soir, non seulement d'avoir l'avis de nos auditeurs, et je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas pris au 3921, je remercie ceux qui nous ont appelés et écoutés. Je vous remercie surtout vous, Chloé Morin et Hélène Romano, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions.
Europe 1. Et à suivre dans votre grand journal du soir sur Europe 1, François Claus, la rétro d'actu des reporters d'Europe 1.
Et oui, nous serons aujourd'hui là où tout a commencé, justement, comment l'Est de la France a été meurtrie.